qui compte pour un acteur, c'est la personnalité, sa présence.
Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
Je m'appelle Berlin Noël et j'aime bien les yens.
Come on, guy, who be sweet with me.
C'est tellement intéressant de voir la réaction des spectateurs à qui on peut déplaire. J'aime bien frôler les catastrophes.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
On a tout vu.
Allez, action!
Action, pour quoi faire?
La jeunesse d'hier et celle d'aujourd'hui. L'une qui a dû vivre après le trauma de la guerre et l'autre qui doit composer dans cette France de 2021. Pas de comparaison possible, mais deux beaux films pour aller plus loin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
La guerre, c'est toujours des salauds qui la font et des types bien. Et les types bien, là, il n'y en avait pas, c'était des hommes. C'est tout. Bonjour Jean-Pierre Darroussin.
Bonjour.
Ce sont les propos de Laurent Mauvigny, dont le livre des hommes est adapté au cinéma par Lucas Bellevaux et dans lequel vous incarnez Rabu, un ancien de l'Algérie qui se souvient douloureusement. À vos côtés, dans ce film, Gérard Depardieu, Catherine Fraud, entre autres. Des hommes sort mercredi prochain. De jeunes hommes, eux, trois garçons dans une voiture vers la Drôme pour conquérir une fille, des vacances et un peu de liberté. Bonjour Guillaume Braque.
Bonjour.
Réalisateur de À l'abordage, sous un film de vacances, une description subtile de la jeunesse aujourd'hui, de ses métissages et des nouveaux visages. À l'abordage, actuellement sur Arte, et le 21 juillet en salle. Les sorties de ce deuxième mercredi, deux réouvertures, dans le désordre, un vieux père, un aéroport perdu, deux frères mafieux, un photographe de guerre, des ballons au Tibet. C'est parti.
Je les connais bien, ces nuits-là. On dit des nuits blanches. Pour toi, elles sont noires. De plus en plus, à mesure que les heures passent. Et on en vient à espérer qu'on ne s'endormira pas. À cause des images qui en profitent toujours pour revenir. Mais on s'endort quand même. Une seconde ou deux. Et elles sont là. Comme des flashs. Alors on se réveille en sursaut. Et on crie. Et on ne reconnaît pas l'endroit où on est. Lié à la sueur aussi. Le froid. Les larmes, parfois.
Je vais me coucher.
Les mots de Nicole pour m'apaiser. Les miens pour m'excuser.
T'inquiète pas, ça se passera bien.
Je connais tout ça. Je connais trop bien.
60 ans après, les images du passé, celles de la guerre d'Algérie, hantent toujours les nuits de votre personnage Rabu, Jean-Pierre Darroussin, dans ce film des hommes signé Lucas Bellevaux, adapté du livre de Laurent Mauvigny. Rabu, avec son cousin Bernard Depardieu, Février et d'autres sont rentrés en France après avoir combattu en Algérie et vécu des atrocités que personne ne veut entendre. Mais qui est Rabu? En fait, c'était un garçon jeune dans les années 50 qui espérait dans la vie.
Oui, c'est un type de la campagne.
Oui.
Et le film était éminemment rural, un moment donné où la France est en train de cesser de l'être rurale. Mais il a encore profondément cette attache, l'histoire de famille après la Seconde Guerre mondiale, les années 50 et ces types qui ont 20 ans à la fin des années 50 et qui sont obligés de partir comme ça pour une nouvelle guerre qui est la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance de l'Algérie, qui évidemment lui il a vécu une enfance familiale. On part pas à l'extérieur. On reste comme ça.
C'est le Morvan.
C'est une région rude où on sent que les secrets sont peut-être encore plus pesants qu'ailleurs, où les secrets ont tendance à vouloir se dissiper quand on part dans les villes. Dans les villes, on va rechercher justement de l'anonymat. Et a échappé à la pression des familles et lui n'est pas parti justement, il est resté là après être revenu de cette guerre d'Algérie, revenu traumatisé et avec l'impossibilité de faire cette résilience dont on parle beaucoup maintenant, qui est en principe quelque chose qu'il faut absolument rechercher et qui aide à vivre. Et là, c'était pas encore à la mode, on n'en parlait pas beaucoup, il n'y avait pas encore de C'est là, on sait pas. Et quand ils sont revenus de la guerre d'Algérie, ils n'étaient pas pris en charge psychologiquement. Et non seulement ça, mais même ils étaient un petit peu rejetés dans leur entourage, qui avait déjà vécu pas mal de guerres ces dernières années, au début du XXe siècle. Et les gens se disaient, ça va pas recommencer, ils vont pas encore nous. Et puis bon, ça va. C'était pas Verdun, ce n'était jamais que des événements, c'est pas de la guerre, puisqu'il a fallu quand même attendre la fin de ce XXe siècle pour que cette guerre soit reconnue comme étant une guerre et que les types qui ont participé aient le statut d'anciens combattants. Sinon, c'était des gars qui partaient faire leur service militaire, bon, dans des conditions un petit peu plus difficiles peut-être, mais
plus longues aussi, 30
plus longues aussi, oui, enfin plus long que cela dit, il était assez long déjà le service militaire à l'époque, hein. mais bon, voilà, c'était, et donc il y a des gens évidemment pour qui ça intéresse toujours de faire la guerre, mais il y en avait quand même beaucoup, ça les a surpris. Et celle-là particulièrement, qui évidemment, les guerres, plus ça va, plus elles sont horribles. On n'arrive pas à faire des guerres. Pourtant, on essaye. Hein. Il y a une technologie qui est de plus en plus au point. On arrive à faire c'est propre. Même les mecs sont maintenant, ils sont derrière des pupitres avec des joysticks pour aller tuer des gens qui sont très loin. Ça se trouve très loin et on arrive à effectivement risquer de moins en moins sa peau et en tous les cas de ne pas être en contact avec l'horreur. Bon, ça s'est pas passé comme ça pendant les événements d'Algérie. Les types ont été vraiment en contact avec l'horreur.
À travers tout ce que vous dites, on sent qu'il y a une responsabilité particulière à incarner ce rôle-là dans ce film-là, sur ce sujet-là.
Oui, bah quand on lit le scénario, quand Lucas Bellevaux m'envoie le scénario, d'abord je suis très content de cette proposition parce que je suis content d'avoir de la possibilité de travailler avec lui. Ça fait, je le connais, je connais son cinéma, tout ça, et je suis content d'avoir. En plus de ça, il me dit bah ça va être avec Depardieu, avec Catherine Froux, que c'est tout ça, c'est beaucoup de plaisir. Et c'était. Oui, on était à Château-Chinon et on a ressenti, cette ambiance de cette famille et puis regarder travailler Gérard Depardieu et travailler avec lui, croiser son regard sur un plateau, c'est formidable.
Les films sont importants sur la guerre d'Algérie car ils aident à comprendre le silence justement et contrairement à une idée reçue, Laurent. Le cinéma français a réagi assez tôt.
Oui, Christine, tordons d'abord le coup à la vieille idée reçue selon laquelle le cinéma français aurait occulté la guerre d'Algérie. Avec plus de 25 films de fiction depuis 1961, notre cinématographie fait jeu égal avec les films américains traitant de la guerre du Vietnam. Tous, loin s'en faut, ne sont pas pour autant des brûlots politiques, à l'image du beau film d'Alain Cavalli, L'Insoumis, dans lequel le conflit algérien est plus un prétexte que le texte lui-même. À l'exact opposé, on trouve le film de René Vautier, Avoir 20 ans dans les Aurès, qui, en 1971, montrait avec un terrible réalisme la vie quotidienne d'un commando d'appelé du contingent. La guerre en direct et en face, si l'on peut dire. Entre-temps, on aura noté que dans Les Parapluies de Cherbourg, de Jacques Demy, c'est le départ du fiancé soldat pour l'Algérie qui sera la cause de l'échec d'une superbe histoire d'amour. Avec RAS, Yves Boisset se mettait, lui, dans les pas de Vautier et pour, au final, un film plus dur encore que son modèle et plus cinématographique aussi. Beaucoup plus près de nous, Philippe Faucon proposait avec son film La Trahison un récit d'une complexité absolue qui fait la part des choses entre appelés, paras et combattants algériens. Mon colonel de Laurent Herbier, Hors la loi de Rachid Bouchareb ou bien encore Loin des hommes de David Holofen ont en commun cette même volonté de regarder le passé le plus objectivement possible, sans révisionnisme mémoriel, sans le poids des blessures d'hier. On s'en voudrait pour finir de ne pas citer l'apport du cinéma documentaire. C'est ainsi que dès 1957, avant la fin de la guerre donc, hein, le même René Vautier signait un court-métrage intitulé « Algérie en flammes ». 35 ans plus tard, Bertrand Tavernier, avec « La guerre sans nom », faisait preuve d'une belle ambition en donnant la parole aux anonymes de cette guerre-là, ceux-là même que l'on retrouve dans le film de Lucas Bellevaux, « Des hommes », sous les traits notamment de Gérard Depardieu. Et de Jean-Pierre Darroussin.
Oui, des hommes qu'on retrouve donc 60 ans après. On revient à ce film et à l'occasion d'un anniversaire, celui de la cousine de Rabus et Catherine Froux et la sœur de Bernard qui est surnommée Feu de Bois. Feu de Bois débarque en plein banquet et provoque l'assemblée.
Fais pas chier, Feu de Bois. Viens t'asseoir.
Ah, on me parle, dis donc. On me parle. Ah, parce qu'il y a du monde, hein. Ils sont tous là. Et lui, là, lui, il peut être là, lui. Il peut être là, alors que moi...
Bernard, arrête.
Oui, bien sûr qu'il peut être là, le crouille.
Tu sors maintenant, tu sors. Fais pas attention, Saïd, hein, c'est rien.
Ça fait des années que j'ai envie de te dire que j'ai envie de te casser la gueule aussi. Te casser la gueule, ta bougnoule.
Tais-toi. Tais-toi. Ça suffit maintenant, tu t'en vas. Tu t'en vas.
D'ailleurs, tu l'auras pas toujours craché dessus au bougnoule, hein.
Qui a dit ça? Qui a dit ça? Les pieds noirs, c'est pas des Arabes. C'est pas des Arabes.
Reprends ça et fous le camp.
Non.
Va-t'en, je veux plus te voir.
Voilà. C'est ce que tout le monde redoutait et ça arrive. Comme si ça devait arriver forcément. Comme si c'était écrit. Alors les hommes se précipitent. Les plus costauds. Les plus braves. Ceux qui ont moins peur de lui. Roland, Marcel, Roger, Alex. Pas moi. Impossible pour moi. Mon corps refuse. Personne ne le frappe. On connaît sa force. On sait qu'il se souviendra, qu'il saura reconnaître l'auteur de chaque coup. Alors personne n'ose. Et chacun se protège comme il peut.
Des hommes, Lucas Bellevaux, comprendra au cours du récit les blessures de Bernard à travers les différents flashbacks. Bernard, c'est un sanguin, et vous, votre personnage, Jean-Pierre Darroussin, Rabu, sa dérive est plus lente, est imperceptible presque.
Oui, c'est un personnage beaucoup plus introverti, ouais. Et puis en plus de ça, qui a été justement un petit peu écrasé aussi par la personnalité de son cousin, ouais. Même si ils ont une enfance commune, ils savent exactement d'où les choses viennent. Quand on a des amis d'enfance ou la famille, tout ça, on sait parfois quel a été l'endroit où ça a pu basculer, ou quel est le rapport, quelle est la profonde. On reste, hélas pour les gens d'ailleurs, hélas pour les gens, on reste souvent attaché à l'image de ce qu'on croit, de l'image de ce qu'on s'est fait, l'étiquette qu'on a mis. Et le personnage que joue Gérard Depardieu, le personnage de Feu de Bois, évidemment est victime de tout ce que les gens ont pu penser sur lui dans le passé, à l'époque et tout ça. Et ils entendent encore moins le fond de son traumatisme, puisqu'ils sont obscurcis, je dirais, par l'idée qu'ils se sont toujours fait de ce personnage qui a toujours fait un petit peu des bêtises, voilà.
Rôle ténu et délicat, dit Lucas Bellevaux, complexe, paradoxal, il faut tenir la note à chaque instant pour ce Rabu, pour lequel il y a beaucoup de voix off. Donc vous avez enregistré un texte avant le tournage ou...
Oui, alors il se trouve qu'on a... pour des voilà, c'était plus pratique pour Lucas d'avoir à peu près le timing des voix off. Donc on les a enregistrés avant, comme ça, un petit peu par hasard, le premier jour. C'est curieux parce que vraiment, oui. Et dans un coin d'une salle où on faisait les essais images, quoi, voilà, pour avoir du son témoin. Et ce son témoin était pas mauvais et il l'a gardé.
Ah oui.
Oui. Et on a vraiment, franchement, à peine retravailler une ou deux phrases par-ci par-là pour au moment du mixage pour refaire un peu quelque chose, mais la première version de la voix off était la bonne.
Vous, Guillaume Braque, le cinéaste de la jeunesse, comment vous avez regardé, parce que vous avez vu Des hommes?
Oui, bien sûr, je l'ai vu d'ailleurs sur grand écran juste avant la fermeture des salles.
Oui.
Ce que je trouve très beau, justement, c'est ce que je disais juste avant l'émission, c'est la manière dont le film confronte justement cette jeunesse pleine de désirs, etc., et qui est broyée et qu'on retrouve en lambeaux 50 ou 60 ans plus tard. Et donc c'est à la fois un film sur la jeunesse et à la fois un film sur... Enfin voilà, c'est le film parle du temps, quoi, ouais. Du temps qui passe et des... Je trouve le film très fort et il se trouve que j'avais aussi lu le livre de Laurent Mauvigné il y a des années, que j'avais aussi beaucoup, beaucoup aimé.
Vous n'avez pas vécu ce trauma, bien sûr, Jean-Pierre Darroussin, ni même, je ne sais pas si vos ascendants l'ont vécu. Vous dites que vous n'avez pas fait de recherche historique et vous dites que j'ai d'autres traumatismes, je m'occupe plutôt de vibrations contemporaines.
J'ai dit ça?
Oui.
Bon,
attends, il va falloir assumer.
Que je connais, il va falloir que je vous parle bien.
Donc,
non, mais sur le fait
non,
de.
Non, mais oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Évidemment, qu'on va chercher, on va chercher dans ses propres expériences pour rencontrer un personnage, pour aller justement ne pas faire ce qu'on fait avec les gens dans la vie dont je parlais tout à l'heure. Les personnages, il faut essayer d'être un bon juge d'instruction avec eux et de les comprendre au mieux et de tenir compte de plein de choses différentes. Moi, évidemment, j'ai rencontré autour de moi quand même des gens qui avaient vécu cette guerre. J'en connais encore d'ailleurs qui restent même tout à fait brisés dans leur chair. Il y a beaucoup de, parce que on parle de, mais il y a aussi beaucoup d'handicapés, des gens qui sont revenus et qui ont été handicapés toute leur vie. Donc j'en connais et je sais quelle est la part du ressentiment profond de cette dette qui est que l'État français d'une certaine façon a vis-à-vis de ces gens et l'État algérien aussi, parce que les deux, il y a quand même quelque chose qui est grave, je trouve, c'est que dans les accords d'Évian, il a été décidé historiquement que personne n'ignorait pas de procès pour crime de guerre, que personne ne serait inquiété par rapport à ce qui s'est passé. Et c'est assez grave parce que quand il n'y a pas de coupable, quand on ne peut pas, et ben il n'y a pas d'innocent non plus. Donc tout le monde se sent responsable quelque part dans sa tête. Il y a la tumeur n'est pas résolue, elle est là, elle est. Il y a cette noirceur reste et cette noirceur peut effectivement entraîner des profond ressentiment, et le ressentiment, on sait que c'est jamais bon, ça sépare tout le monde, ça casse tout, ça casse la société, ça casse les familles, et c'est ce qui se passe.
Le film s'appelle Des Hommes, il est signé Lucas Bellevaux, il sort mercredi prochain. Pas de comparaison possible entre vos deux films, je le disais en ouvrant cette heure. Si, pourtant, un point commun, il y a un acteur, Édouard Sulpice, celui qui vous incarne, Jean-Pierre Darroussin, jeune, dans Des Hommes, eh bien, il se retrouve à l'affiche de À l'abordage, votre film Guillaume Braque. Édouard qui va covoiturer Félix et Chérif dans la Drôme, où Félix voudrait retrouver Alma, la fille qu'il a séduit la veille à Paris.
Oh, je t'aurais bien raconté la soirée qu'on a passée, mais là, il y a un bon bain. Je ne peux pas rentrer dans
le... Oh, si je dérange, faut le dire. Hein. Vous prenez pour qui, hein? Attendez, vous arrivez en retard, vous me mentez, je suis pas votre chauffeur. Hein. Après, vous parlez entre vous comme si j'étais pas là. Quoi? Bah ouais, je suis énervé. Oh, c'est pas ça le covoiturage. Le covoiturage, on est sympa, on essaie de s'intéresser aux gens.
Bah, mais libre à toi de participer si tu veux ou pas, chaton, y'a pas de problème. Hein. Bon, regarde, t'as entendu la conversation depuis tout à l'heure. Surprise ou pas surprise?
Bah, je sais pas, je la connais pas.
Bah, comment ça, tu la connais pas? T'as pas besoin de ça? Pourquoi la connaître?
C'est Sandaron.
Non, t'as pas besoin de ça pour juger le truc, non?
Bah. Je sais pas, vous auriez pas une photo que...
Ah, il est malin, il veut une fiche technique.
Attends. La situation ne suffit pas, faut une photo. Je vais lui montrer une photo d'une vraie meuf. Regarde. T'en penses quoi?
Ouais, il a bégayé. Il bégaye. Impossible de parler.
Elle est jolie.
Ouais, bien sûr qu'elle est.
Elle est jolie, mais elle a l'air d'avoir du caractère.
Non, mais le gars, il sent les photos, quoi.
Mais je pense que oui, il faut lui faire la surprise.
On est d'accord.
Bah oui, il faut prendre des risques avec une fille pareille.
T'entends?
Quelle fraîcheur dans ce ton et ce comédien à l'abordage. Guillaume Braque, cette histoire, vous l'avez construite avec une promo d'étudiants du conservatoire. 8 mois avant le tournage, un atelier avec 12 d'entre eux, dont 2 élèves ont surgi notamment, c'est Eric Nanchuang et Salif Cissé. Qu'est-ce qu'ils avaient de particulier, ces deux-là? Qu'est-ce qu'il y avait de mieux que les autres?
C'était pas une question d'avoir mieux que les autres, mais en fait, moi, dès le départ, je me disais que j'allais vraiment... parce que j'avais pas a priori d'histoire à raconter comme ça, avec une dizaine, une douzaine de jeunes gens, et donc je savais que le film comporterait une part documentaire et que chacun de ces jeunes comédiens allait assez profondément nourrir les personnages, nourrir le récit. Et donc, en fait... Quand on m'a proposé de choisir, parce que je pouvais pas faire un film avec 30 comédiens, il fallait quand même en choisir une dizaine, une douzaine. Quand il a fallu les choisir, je les ai tous rencontrés individuellement. On a longuement parlé. Et moi, j'ai choisi ceux, au fond, bon, évidemment, qui me touchaient le plus, mais aussi ceux qui avaient le plus de choses à me raconter et qui avaient peut-être le vécu le plus riche et qui allaient nourrir le récit. Et peut-être aussi l'envie, le désir. Et c'est vrai que Eric Nanchuang et Salif Cissé, donc qui sont deux comédiens noirs, avaient un désir immense de jouer. Eric Nanchuang m'avait beaucoup touché en m'expliquant que lui, son texte préféré, c'était Les souffrances du jeune Werther, et que son rêve serait d'incarner Werther, mais qu'il craignait qu'on lui propose que des rôles de vigile ou de dealer, etc. Et que lui, il aimerait jouer des amoureux transis. Moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a donné extrêmement envie de lui écrire un rôle d'amoureux transi. Voilà.
En même temps, ces deux garçons étaient très vigilants sur l'écriture et surtout sur le traitement de personnages noirs face, dites-vous, à un réalisateur blanc, 20 ans de plus que... En fait, ils voulaient pas de vagues, un peu.
Je sais pas si c'est pas de vague, mais je pense que, je pense qu'ils ont été tellement, probablement blessés par tellement de représentations qui ont pu être faites dans le cinéma, voilà, le cinéma en général, mais peut-être particulièrement le cinéma français, que vraiment ils se demandaient ce que j'allais bien vouloir, bien pouvoir raconter d'eux. Et puis ils disaient, mais pourquoi ils nous mettent au cœur du film? Et en fait, ce qui est passionnant, c'est que moi, si j'avais pas eu cette proposition-là et si j'avais pas rencontré ces comédiens-là, je me serais jamais senti, je crois, totalement légitime pour écrire un film dont les deux protagonistes seraient deux jeunes gens noirs de 25 ans. Je me serais dit, mais alors, pour raconter quoi, pour dans quel but, etc. Et là, ce qui était génial, c'est que toutes ces questions-là étaient un peu balayées, parce qu'en fait, tout simplement, ils étaient devant moi. C'était des comédiens extrêmement puissants que j'avais très envie de filmer. Et après, il s'agissait juste de les laisser infuser les personnages et le film et les filmer. Voilà, évidemment, comme deux jeunes gens traversés par des sentiments, par des émotions, et absolument pas dans une volonté de démontrer quoi que ce soit ou de. Pour autant, c'est même si le film ne parle pas de ça, que c'est pas le sujet du tout du film. J'avais le sentiment que c'était pas possible en France en 2020 ou 2021 de faire un film dans lequel cette question-là raciale soit absolument absente, et ça, c'était là-dessus qu'on avait un peu des débats. C'est que eux, au début, disaient non, mais c'est même pas une question, le fait qu'on soit noir. Moi, je leur disais forcément, d'une manière ou d'une autre, ça a une influence sur les rapports entre les personnages. Simplement, on va pas en faire un sujet, c'est quelque chose qui va irriguer le film de manière souterraine. Et voilà, je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire.
Et notamment dans cette scène, parce que Félix, en fait, dans la Drôme, rejoint une fille blanche, donc il a séduit la veille à Paris, et il côtoie un milieu qui n'est pas le sien. Il va la raccompagner en vélo dans sa jolie maison de la Drôme, justement.
Tu peux t'arrêter dans ce coin. Merci, je suis bientôt arrivée. J'ai pas parlé de toi à mes parents, donc c'est peut-être mieux qu'on se dise au revoir ici.
Montre-moi au moins ta maison.
C'est elle, là. Avec les volets bleus.
Je suis pas trop leur genre, c'est ça?
Quoi? Mais t'es complètement à côté de la plaque. Mes parents sont très ouverts.
S'ils sont très ouverts, alors tout va bien.
Oh, mais c'est quoi ton problème? C'est quoi, rentre au camping, ça vaut mieux.
Attends, Alma, t'en as pas marre de faire ta princesse et de me donner des ordres, là? Déjà, tout à l'heure, tu m'envoies au snack alors que t'es en train de parler à l'autre bouffon. Il est là à te baiser les pieds.
Baiser les pieds? Mais mettre un pansement, t'appelles ça baiser les pieds? Mais c'est tu dois aller te faire soigner. Hein. Bon.
Attends.
Lâche-moi.
Je te laisse si tu m'écoutes 2 minutes.
Tu me lâches? Je déteste le chantage.
Ok, je suis désolée.
Ça te suffit pas de m'avoir ouvert le pied, faut en plus que tu me casses le bras?
Je suis désolée de t'avoir fait mal et je suis désolée de m'être énervée, ça te va? viens dans mes bras au moins.
Ça marche pas comme ça. Hein. Là, tu vois, j'ai pas du tout envie que tu me touches.
À l'abordage Guillaume Braque, ces différences sociales sont aussi évoquées à l'occasion d'une discussion sur un accès à une école de commerce, qui est vite interrompu, justement. Pourquoi? Parce que c'était intéressant oui, parce que le jeune noir lui dit à l'autre, bah oui, mais moi, j'ai pas les codes. Et l'autre va se coucher, et la discussion est interrompue. En même temps, on vous demande pas un film social, mais pourquoi avoir interrompu cette discussion?
Ah. Alors, je pourrais faire deux réponses. Je pourrais dire que je pourrais dire que probablement Edouard a pas une folle envie d'aller sur ce terrain-là et qu'il est justement en train de rencontrer ces deux garçons qui en effet socialement sont assez loin des jeunes gens qu'il a l'habitude de côtoyer et probablement qu'il a pas envie d'aller sur un terrain qui va recréer possiblement un fossé entre eux. Donc on sent qu'il n'est pas très à l'aise avec cette discussion. Après, il se trouve qu'on a tourné une scène plus longue. Enfin, la discussion se poursuivait. Et en fait, le film, à ce moment-là, si la scène se prolongeait, pouvait tomber dans quelque chose d'un petit peu démonstratif et didactique. Et je trouve que cette légèreté était vraiment très précieuse. Ça reste un film d'été, ça reste une comédie, ça reste un film quand même sur des jeunes gens qui réussissent à se rencontrer et à partager un moment en commun. Et voilà, il fallait garder une légèreté de touche, quoi, et donc pas trop appuyer
sur la libération du désir de ces jeunes. L'un de vos modèles, c'est Romer, ou l'un de vous, sur cette jeunesse qu'il a filmé jusqu'au bout, même très vieux, où le langage est très important chez vous. Il est plus, je veux dire, chez Romer, on manipule plus l'autre, pas chez vous.
Non, c'est vrai que dans mes films, je pense qu'il y a, enfin, moi, j'adore Romer, évidemment, j'ai une immense admiration pour lui. Je pense que dans mes films, il y a un rapport finalement qui est plus brut et plus direct au langage, et que les personnages ont probablement moins d'aisance pour analyser leurs émotions, leurs sentiments. Ils sont un peu sans cesse pris de vitesse par ce qu'ils vivent, et ils n'ont pas vraiment le temps de revenir sur, enfin. Voilà, et je pense que ça vient aussi moi de mon propre rapport au langage. Pendant longtemps, j'étais quelqu'un d'assez timide, j'avais pas un rapport aux mots et à la parole très facile, etc. Et je crois que j'ai toujours été touché aussi d'ailleurs par les acteurs qui peuvent avoir un rapport un peu à la fois accidenté au langage, vivant. Et puis c'est vrai que, comment dire. Je fais pas des films d'action dans mes films. Les gens parlent beaucoup, mais pour autant, on est quand même toujours un peu dans l'action.
Oui, en fait,
on
vraiment.
Dans l'action, et c'est quand même ça qui me plaît.
Bon. Justement, à l'occasion d'une excursion où Chérif fait son babysitting au camping, il y a des occasions de rapprochement qui sont très jolies finalement. On va écouter l'une des deux, en haut de la montagne ou alors au camping. Qu'est-ce que vous préférez comme extrait?
Ah, en haut de la montagne, c'est beau, en haut de la montagne.
Allez, en haut de la montagne.
Il ronfle, hein, shérif, hein, j'ai mal dormi aussi. Ah, c'est beau.
C'est magnifique. Je vois ce vent-là. Ce petit vent comme ça, le vent de l'altitude, ça fait plaisir quand même. Oh, je te jure, ça me rappelle tellement de trucs.
Il est très beau ce moment, Guillaume. Tous les deux montés en vélo. Edouard pensait pas que l'autre ça arriverait plus vite que lui.
Ils sont un peu tirés la bourre. Je pense qu'Edouard était un peu vexé que quelqu'un qui n'avait jamais particulièrement fait de vélo lui grille la politesse dans la montée.
Ouais. C'est le cycliste qui est en vous qui s'exprime. Hein,
ah, ça c'est sûr que dans chaque film, il y a une scène de cyclisme.
Jean-Pierre Darroussin, vous avez vu l'abordage?
Oui, je l'ai vu.
Alors
c'est un film tout à fait merveilleux. D'abord, les jeunes acteurs sont... Je les aime beaucoup, ils sont très bons. Et la fraîcheur, elle tient au fait aussi que les personnages, et ça c'est bien, s'installent dans l'instant présent. Ils arrivent à faire ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire, à prendre la vie et l'instant comme il vient. Et ça fait du bien quand on voit des personnages qui arrivent à vivre l'instant présent sans trop de jugement et d'accepter le le moment qu'ils ont à vivre et d'en faire quelque chose, et d'en faire une expérience. Je trouve le film très réussi à ce niveau-là.
Mais c'est très beau ce que dit Jean-Pierre, parce que c'est vrai que je me faisais réflexion récemment que qu'en fait il y a une sorte, enfin les personnages dans mes films, en particulier dans celui-là, sont sans cesse au présent. Il y a pour ainsi dire pas de backstory. Ben, voilà, ça, c'est, évidemment c'est une énorme différence avec le film sur l'Algérie, mais ça pour des raisons qu'on comprend très bien. Mais et donc il y a une sorte d'égalité. Le spectateur en fait rencontre les personnages en même temps que les personnages se rencontrent, et on assiste en fait à tous les travaux d'approche en quelque sorte, et tous les heures, et à la fois toutes les avancées dans la relation avec les gens. Mais ça me touche le moment aussi que vous avez, enfin l'extrait que vous avez choisi, et c'est intéressant parce que je me souviens que c'est en faisant une répétition un petit peu avant le tournage, parce que pendant 2 semaines j'ai réuni mes acteurs en extérieur au parc Montsouris à Paris, et tous les après-midi pendant 5-6 heures on passait en revue toutes les scènes du film, ils improvisaient et j'enregistrais les dialogues, et c'est Eric Nonchang qui la situation, c'était, il est avec Edouard en haut de cette montagne, ils viennent de la gravir, et puis ils passent un moment ensemble. Et lui, en fait, il a eu ce moment d'écoute, de silence. Il y avait une petite brise dans le parc Montsouris, et il a commencé à parler de ce vent-là. Et tout d'un coup, ça ouvrait tout un champ immense, parce que ce vent-là lui faisait penser à des souvenirs d'enfance, etc. Et il a même pas besoin de le dire, on le sentait à travers. Voilà. Et le miracle, c'est que en haut de cette montagne, il y a eu de nouveau cette petite brise, et il a pu finalement réutiliser en quelque sorte cette improvisation qu'il avait faite quelques semaines avant.
Jusqu'au bout, vous filmerez la jeunesse, c'est plus intéressant, c'est plus en devenir, c'est plus accidenté.
Alors non. Ce qui est vrai, c'est que il y a quelque chose, je pense, dans mon rapport au cinéma, et peut-être les émotions décisives qui m'ont amené à faire des films qui restent associés à ces années de la vingtaine. Mais pour autant, moi, ça m'intéresserait énormément aussi de faire des films dans lesquels cette jeunesse est confrontée, rencontrée à d'autres générations. D'ailleurs, dans Tonnerre, il y avait un petit peu ça entre Bernard Ménez et Vincent Macaigne. Et donc non. Là, il se trouve que le principe même du film était de faire exister une dizaine de personnages d'une vingtaine d'années. Donc il n'y avait pas vraiment la place pour des acteurs plus âgés. Mais après, c'est vrai que j'aurais du mal pour l'instant, parce que peut-être j'ai pas encore vécu certaines choses. J'aurais du mal à que le point de vue central du film soit celui de quelqu'un plus âgé que moi. Mais
Le film s'appelle À l'abordage, il est visible sur Arte en ce moment et il sera en salle le 21 juillet. Et si vous restez avec nous tous les deux, on va parler des sorties après Yeli Yeli Tassousmi.
Que je frappe le sol, je frappe le ciel de ma voix. Tassousmi, 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 Satyanimi.
On va parler des sorties.
Avec plaisir.
On va commencer par Sounds of Philadelphia de Jérémy Guez avec Mathias Kunhardt et Joel Kinnaman. Philadelphie, il y a 30 ans, la famille de Michael a recueilli Peter à la mort de son père. Dans des circonstances opaques, aujourd'hui, Peter et Michael sont deux petits malfrats au tempérament opposé. L'un est aussi violent et exubérant que l'autre est taciturne. On sent, Laurent, l'ombre de Scorsese et surtout de James Gray.
Et voilà, Scorsese, James Gray, Clint Eastwood aussi. Oui. On pourrait aligner comme ça les noms de cinéastes américains pour ce cinéaste français, il faut le dire. Voilà, ouais. Il faut lui reconnaître cette, au fond, cette assez belle ambition de se mettre dans ces traces-là, dans ces pas-là. Et en même temps, le problème, c'est que dans ces cas-là, effectivement, l'héritage est tellement écrasant, l'héritage est tellement présent, et qu'il s'en détache très peu finalement, parce que le très gentil Peter face au très méchant Michael, on a l'impression d'avoir vu ça 25 fois, la surabondance des scènes nocturnes, la surabondance des scènes de violence qui tout d'un coup se déchaînent, sans oublier le passé traumatique qui revient par flashback. Bref, tout ça a une impression, donne une impression de déjà-vu, une grande maîtrise visuelle, deux grands acteurs face à face, mais est-ce que ça fait vraiment pour autant un film original? Je crains que non.
Pour autant, comme vous dites, il a signalé que ce film sera à l'affiche parmi beaucoup d'autres films noirs polars au festival Reims Polar.
Bravo.
Jusqu'à demain en ligne, 20 films au total, avant de retrouver Reims Polar pour de vrai l'année prochaine. The Father, premier film de Florian Zeller. C'est un voyage dans un pays dans lequel personne ne voudrait finir ses jours, dans Alzheimer, dans la tête d'un homme de 81 ans. Ses visions, ses absences, incarnées par Anthony Hopkins, un film adapté avec Christopher Hampton de la pièce que Zeller a créée en 2012. Un appartement comme un labyrinthe mental, oppressant, dans lequel les pièges peuvent surgir de partout, un tableau manquant, une montre perdue comme l'incarnation du temps qui file, s'arrête pour perdre finalement la notion de ce temps. Loin du théâtre filmé, le cinéma au contraire aide Zeller à illustrer subtilement ce chaos mental en jouant sur les décors, et la mise en scène se fait onirique au centre de cette histoire. Il y a un acteur qui ne surjoue jamais, ni dans ses absences, ni dans cette conscience subite qui le rend cynique, agressif, avec même quelques relents lointains d'Hannibal. Parfois, il suffit d'un seul plan pour mesurer le talent d'un acteur. C'est celui où Hopkins se regarde dans le miroir. C'est très furtif, il se regarde vraiment comme un moment de pleine conscience, seul face à lui-même. Oui, un moment de vérité face à lui, et n'oublions pas, il y a Olivia Colman, la fille, le témoin, impuissante, comme nous tous, devant ce désastre, cette déliquescence.
Mais je serais moins, je serais un petit peu plus sévère, et j'aurais juste à dire quatre postulats. Postulat 1, la vieillesse est un naufrage. Postulat 2, Anthony Hopkins est le grand acteur que vous venez de décrire. Postulat 3, un portrait clinique ne fait pas un film. Postulat 4, Zeller n'est pas un grand écrivain. Et je crains hélas qu'il ne soit pas un grand cinéaste. En tous les cas, quand on a une belle trouvaille littéraire comme celle qu'il a, en moment du film, où son personnage, le personnage de, qui est atteint d'Alzheimer, dit « Je sens, je suis comme un arbre dont les feuilles tombent », à ce moment-là, comme le fait Zeller, mettre sa caméra face à un arbre dans la rue, moi, ça me pose un problème. Voilà, c'est ça qui est un peu dommage, c'est cette lourdeur didactique, je l'ai sentie tout au long du film.
Dommage.
Pas d'accord.
Non,
du tout.
Merci.
Je trouve
merci.
Le film magnifique, voilà. Extraordinaire et extrêmement touchant. Ça.
Eh bien, nos auditeurs iront se faire l'idée en
voilà.
Dans les salles.
Vers la bataille. Est-ce que c'est bien ce film-là dont on parle? Oui, Vers la bataille.
Hospitalité de non.
Ah
de,
oui, bah, Hospitalité. Pardon. Ouais. Hospitalité. Ce film incroyable japonais. En fait, c'est des étrangers qui débarquent dans un appartement de. Un japonais et sa famille.
Ouais, c'est un film, faut le dire, il date de 2010. C'est un film de Koji Fukada, mais il était jamais sorti en France, et heureusement qu'il sort. Alors, vous savez, il y a un truc, si on enlève le thème familial du cinéma asiatique, il y a 90% des films qui n'existent plus, parce que depuis Ozu, c'est quand même, la famille, ça fait le substrat de beaucoup, beaucoup de films asiatiques. Tant mieux, c'est intéressant. Mais là, il se greffe un thème, alors que pour le coup, le cinéma asiatique, en tous les cas japonais, très, très, très peu, alors que c'est un vrai problème sociétal, c'est l'immigration. Et il y a un formidable casting rassemblé pour ce film qui montre effectivement comment un squatteur va très gentiment, avec beaucoup d'humour, phagocyter une famille en les faisant d'ailleurs un par un chanter pour des choses qu'ils ont faites qui sont pas très claires. Il y a un dénouement paroxystique qu'on peut un peu regretter, mais c'est pas grave. Parce que franchement, l'humour avec lequel Fukada traite tout ça, traite de ces deux thèmes croisés, la famille et l'immigration, c'est tout à fait plaisant, singulier et très très attachant. Ça s'appelle Hospitalité.
Vous regrettez pas le paroxystique, mais vous regrettez l'arbre dans le film de
Florian
Zeller.
Oui.
Vers la bataille d'Aurélien Verne Lermuzio au Mexique au 19e siècle, l'histoire d'un photographe français qui veut filmer la guerre coloniale mais incapable de prendre le moindre cliché et dont la rencontre avec un paysan va lui ouvrir d'autres horizons. Pour un premier film, on peut dire que c'est un sujet super ambitieux et passionnant, les débuts de la photo et cet anti-héros comme un ancêtre des reporters de guerre face à l'horreur de la guerre et déjà aux fake news, cette référence aux fake news. Seulement voilà, ce n'est pas Werner Herzog et ses ténèbres et sa poésie, même si Malik Zidi est un excellent acteur. Le scénario, malheureusement, ne donne pas assez de chair à son personnage, ni à l'amitié qui le lie à ce paysan. Enfin, pour nous impliquer vraiment, nous, spectateurs, malgré l'image très belle, malgré la musique moderne en contraste avec l'époque, avec ses vibrations, elle n'évite pas, malheureusement, l'ennui dans ce parcours initiatique. Et pourtant, c'est une belle promesse, on attend les prochains films de ce réalisateur.
Pas mieux.
Bon, d'accord. Si le vent tombe, de Nora Martirosyan. Ce film est parti d'un voyage que la réalisatrice a effectué au Karabakh, un pays avec une capitale, un président, une constitution, et qui pourtant n'existe pas sur le plan juridique et géopolitique. Après 10 ans d'aller-retour, c'est grâce au cinéma qu'elle va le faire exister à partir d'un décor stratégique, l'aéroport dans lequel aucun avion ne décolle ni n'atterrit, et dans lequel débarque un observateur international, c'est le français Alain Grégoire, incarné par Grégoire Collin.
Non. Tout à fait. Avec un personnage, un autre personnage central, qui est cet aéroport dont il faut citer le nom, Stepanakert.
Ouais,
c'est étonnant, c'est-à-dire qu'en plus il a été construit par un architecte plutôt inspiré parce qu'il en a fait une sorte de deux ailes. Donc c'est un énorme avion blanc très gros comme ça, un aéroport posé au milieu de rien, au milieu d'un concentré de routes qui n'aboutissent à rien. Et toute cette métaphore-là, toute cette image-là qui est récurrente pendant tout le film est formidable. C'est-à-dire qu'effectivement, on a cette espèce de la carte et le territoire en quelque sorte, hein, que le film exalte en permanence, et puis ce petit personnage de technocrate qui va progressivement perdre ses illusions, mais aussi perdre ses idées reçues, en se confrontant aux Arméniens qu'il rencontre tout au long du film.
Un mot sur Grégoire Collin, parce que ce type est incroyable, cet acteur est fascinant, cette grande silhouette, cette voix grave, cette belle gueule, c'est un acteur rempli de mystère comme son personnage. Collin, il est né acteur dans les années 90, très présent dans le cinéma de Claire Denis, vu ici et là, sans jamais percer vraiment, et comme si rien ne l'atteignait, ni la gloire, ni l'oubli. On espère le voir dans d'autres films, ce Grégoire Collin. On va terminer avec un doc, Laurent. En Sicile, Il mio corpo.
On dit juste beaucoup de bien de Balloon, passant le film tibétain de Penat Sedan, qui est une façon très très intelligente de passer outre la censure chinoise qui interdit de remettre en cause notamment la politique de l'enfant unique. C'est un film extrêmement poétique, extrêmement ambitieux, avec une façon d'utiliser des préservatifs sous forme de ballon qui est absolument réjouissante.
Et enfin, donc je le disais, ce doc en Sicile.
Oui, de Michele
Penata. Deux destins en miroir.
Exactement. C'est un doc alors qui clairement joue sur la frontière entre le documentaire et la fiction, sans jamais choisir ou l'un ou l'autre, et c'est très très bien ainsi. On ne sait jamais sur quel pied le film danse, et sur nous du coup quel pied nous devons danser, mais c'est tout à fait justement surprenant et inquiétant, ce parcours croisé entre une famille de ferrailleurs et un immigrant nigérian. Ça s'appelle Il mio corpo.
Très vite, la rétrospective Chantal Akerman au Forum des Images à Paris, qui accueille le festival Premier Plan d'Angers, et avec un programme avec des gens qui vont présenter ces films, notamment Christophe Honoré le 6 juin qui présentera Golden 80s et puis deux festivals.
Oui, en vrai, retourner au cinéma, retourner aussi dans les festivals de cinéma, musique et cinéma à Aubagne jusqu'au 5 juin avec Ibrahim Malouf en invité principal, et puis cinéma à tous les étages, à Alès, le festival Itinérance, Yves Jelan, Fab Caro, Julie Gaillet, Jackie Berroyer en sont les invités principaux, et 82 films inédits s'il vous plaît, c'est jusqu'au 9 juin.
45 secondes pour deux cadeaux, un cadeau par invité, on va commencer par qui Laurent?
Allez, on commence par Jean-Pierre Darroussin, deux Fellini sinon rien, les nuits Cabiria, voilà, chef d'œuvre absolu, Guleta Massina, c'est chez Tamasa, c'est un combo Blu-ray DVD, il y a un livret formidable d'Aldo Tasson, c'est l'occasion de redécouvrir vraiment cet immense film, qui est d'ailleurs la première collaboration, non, c'est pas la première collaboration avec Nino Rota, mais il y a une très très belle bande-son, évidemment, de Nino Rota, et puis Massina, la femme de Fellini,
Perrier.
Sublime. Et François Perrier, dans le rôle abominable d'un affreux.
Il a bien lu.
Et puis pour vous, Guillaume Braque, d'autres invité Vitelloni, un peu, hein, même si vos Vitelloni à vous sont quand même génial. Pas à ce point-là des veaux, des crétins comme les montre Fellini dans ce magnifique film avec notamment Alberto Sordi et qui là est la première collaboration avec Nino Rota. C'est toujours en combo Blu-ray, DVD chez Tamasa avec un livret d'adaptation formidable.
Merci Guillaume Braque à l'abordage sur Arte, le matin Julien Lansal, merci Jean-Pierre Darroussin pour Des Hommes mercredi prochain de Lucas Bellevaux. On vous laisse les clés du générique. Au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Georges Delerue a écrit les musiques du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Christophe Magère s'est occupé de la préparation.
C'est une émission réalisée par Laurent Thomas et Claire Destacan.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Jean-Pierre Darroussin
et moi, Guillaume Braque, j'y étais.